Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et soyez bénis cet après-midi encore, et que le nom du Seigneur soit glorifié, soit exalté. Et nous avons loué le Seigneur par nos chants, et nous avons écouté quelques versets extraits de sa parole dans l'évangile de Jean. Cet après-midi, nous allons voir quelques épisodes du passage de la mort à la vie. Alors, il est à noter dans ce premier texte lu, merci Hélène, donc là on a affaire à un officier du roi qui vient voir Jésus parce que son fils est malade. Donc son fils n'est pas à côté, il est dans une autre ville et vient voir Jésus et lui dit, mais voilà, viens, je te prie, descends parce que mon fils est prêt à mourir. Donc il fait cette démarche de foi d'aller voir Jésus, d'aller le rencontrer, d'aller faire sa demande, parce que apparemment il croit que Jésus est capable d'accomplir ce miracle. Enfin, en tout cas, de guérir la maladie de son fils. Alors Jésus commence par lui dire, décidément, si vous ne voyez pas de miracle produit, vous ne croyez pas. Il fait quand même cette remarque. Alors on ne sait pas si cet officier du roi était chrétien, était croyant déjà, mais en tout cas il a fait cet acte de foi. Et Jésus va répondre. Et qu'est-ce qu'il va lui dire ? Va, retourne chez toi, ton fils vit. Et là l'impact sur l'officier du roi, c'est cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Donc, c'est ce qu'on dit, il le croit sur parole. Donc, il s'attend à ce que lorsqu'il va arriver dans sa maison, de retrouver son enfant guéri. Et là, on s'aperçoit que lorsqu'il retourne, lorsqu'il arrive, il se renseigne sur comment cela s'est-il passé et surtout à quelle heure cela. Quand cela est-il arrivé? Et les gens de la maison lui disent, ben voilà, c'est à la septième heure. Et elle dit, mais c'est au même moment que Jésus avait prononcé ces paroles. Va, retourne chez toi, ton enfant vit. Et là, on voit un autre effet de cette parole de Jésus, ce passage de presque la mort à la vie, c'est que il crut. Donc effectivement, il n'était pas croyant. Lui et toute sa maison. Voilà comment la gloire de Dieu s'est accomplie au travers de cet épisode. Et une chose à remarquer quand même, c'est que Jésus n'a pas touché le malade. Nous avons assisté à beaucoup d'autres miracles, d'autres guérisons, où Jésus a touché les lépreux, où il était aussi près des personnes, mais là il ne voit pas cet enfant. Les évangiles nous racontent et nous montrent ce Jésus, le prince de la vie, face à la mort. Dans Jean au chapitre 5, il est écrit, « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils, donc Jésus, donne la vie à qui il veut. » Ça, c'était au verset 21. Et au verset 25, donc un tout petit peu plus loin, il est écrit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Voilà une promesse qui est réelle, encore une fois, qui se réalise. C'est une réalité et les faits que nous venons de voir et que nous allons encore voir l'attestent. Et là, on va voir l'exemple d'une fillette de 12 ans, dans Marc, au chapitre 5, à partir du verset 35. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? C'est la fin, elle est décédée. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques, à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris, parce que la petite fille était décédée, bien sûr. Alors Jésus entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquaient de lui. Oui, on sait très bien qu'elle ne dort pas. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père, la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talita kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Et là, aussitôt, la jeune fille se leva et elle se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Là, ce qui est à souligner, c'est que Jésus, lui, ne voit pas cette enfant comme morte. Parce que lui, il la voit comme quelqu'un qui dort. Alors, bien sûr, si Jésus, quand Jésus dit non, elle dort, nous, humains, on ne comprend pas. On dit, il se moque de nous, ce n'est pas possible. On sait très bien qu'elle ne dort pas, elle est morte. Et rappelons ce que nous avons lu juste auparavant, c'est que le Fils donne la vie à qui il veut. Et encore une fois, Jésus répond à la demande du chef de la synagogue. Et puis souvenez-vous de cette histoire, le fils unique d'une veuve. Dans Luc 7, à partir du verset 12, lorsque la porte de la ville, voici, ont porté en terre un mort. Fils unique de sa mère, qui était veuve. Elle avait déjà enterré son mari. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et il toucha le cercueil. Alors, ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et il se mit à parler et Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Voilà encore une troisième intervention divine de Jésus, de la puissance de Jésus, de ce qu'est capable de faire le prince de la vie. Là, on est encore dans un autre cas, vous voyez, c'est crescendo. Et encore, on n'a pas vu presque le summum. C'est qu'au début, l'enfant est malade, presque mourant, mais pas encore. Et puis après, la petite fille, elle vient juste de mourir. Là, on emmène le corps. À chaque fois, il y a toujours plus de temps qui s'est écoulé jusqu'à l'intervention divine de Jésus. Aucun médecin n'aurait pu, en voyant ce corps emmené, prêt aller en terre en disant « Tiens, je vais lui faire une petite piqûre » et puis hop, il va descendre de son cercueil. Et là, Jésus ne touche pas le corps non plus. On voit que ce n'est pas la puissance de Dieu s'exprime de manière divine, on va dire. Vraiment par sa toute-puissance. Et puis nous en venons à un exemple encore plus fort, on va dire. Hein. C'est Lazare. Alors on va juste se rappeler et on va lire ce récit. Il y a beaucoup de choses dans ce récit, mais on reste sur le passage de la mort à la vie, hein, bien sûr. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Vous vous souvenez, c'était cette Marie qui oignit le Seigneur, de parfum le Seigneur, et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et Lazare était son frère. C'est lui qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, qui n'était pas dans la même ville, hein, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Donc elles connaissaient les sentiments que Jésus portait envers Lazare. Après avoir entendu cela, Jésus dit « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Je ne sais pas s'ils ont tous bien compris ce que Jésus avait déjà imaginé au travers de cela, mais en tout cas, il leur annonce que ce à quoi ils allaient assister, c'était vraiment pour la gloire et à la gloire de Dieu. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Ils étaient très proches, ils ont vécu d'énormes choses ensemble et bien plus après, lors de la crucifixion de Jésus. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il a couru à son chevet. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Il est écrit, il resta là encore 2 jours, là où il était, dans le lieu où il était, à faire ce qu'il avait à faire. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. En plus, il y a encore le temps de faire la route. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée ? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures par jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas avec lui. Il aime bien les images, Jésus. Hein. Faut comprendre, faut le suivre, hein, des fois. Hein. Je ne sais pas si à l'époque, tous réussissaient à capter, à se dire, mais qu'est-ce que Jésus raconte, là ? Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Encore une fois, il y a cette histoire de dormir, cette question de dormir, comme avec cette petite fille. Jésus ne voit pas Lazare comme mort. Qu'est-ce que la mort pour Jésus ? Si ce n'est qu'une autre forme de vie. Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Et voilà. Même réaction que pour les gens qui étaient avec cette petite fille. Mais ils se moquent de nous. On sait très bien qu'elle ne dort pas. Et là, ses disciples lui dirent, « S'il dort, forcément, il n'y a même pas besoin de le guérir. Il va se réveiller. » Jésus avait parlé de sa mort. Mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort pour vous. » Vous, en face de moi, Lazare est mort, voilà. Et il fallait qu'ils disent les choses clairement. Eux, ils n'avaient pas compris. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Voilà, il justifie pourquoi il n'est pas revenu. Il a laissé le temps à Lazare, si on peut dire ça comme ça, de mourir. Pas par sadisme. Mais Jésus savait, il l'a rappelé juste avant, pour la gloire de Dieu seul. Jésus est arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que là on arrive vraiment dans un summum. On n'est pas dans le malade presque en train de mourir, à elle vient de mourir, à on l'emmène en terre. Non, là déjà depuis 4 jours, il est enterré. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Est-ce que la simple présence de Jésus fait que personne ne meurt autour de lui, même si on est malade? Juste avant, Jésus avait dit, mais je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ah, elle connaissait, elle savait ce dont Jésus était capable. Et Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Elle savait déjà qu'il y allait avoir cette résurrection. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie, là, maintenant, moi qui te parle. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, que tu devais venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Et elle lui dit aussi, « Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Toi qui l'aimais tant, pourquoi as-tu permis, là c'est moi qui ajoute, hein, pourquoi as-tu permis que cela arrive ? Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Il lui dit, où l'avez-vous mis ? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois, on t'emmène au sépulcre et Jésus pleura. On voit vraiment... Jésus n'a pas pleuré sur beaucoup de personnes, hein. Mais là il a pleuré. Il a pleuré quand on l'emmena voir le sépulcre où son ami était enterré. Sur quoi les Juifs lui dirent, voyez comment il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux lui dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ? Oui, il aurait pu. Mais ce n'est pas le message que Jésus voulait porter. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. Peut-être se disait-il en lui-même, c'est vrai, je n'aurais pas dû le laisser passer par cette épreuve-là. Moi-même, ça me touche. J'aurais peut-être pu m'en passer. Mais voyons ce qui va se passer. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marie, la sœur du mort, lui dit, waouh. Ôtez la pierre, Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là-dedans. Forcément, il doit commencer à sentir pas bon. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Là encore, Marthe, jusqu'à la dernière minute, elle dit, non, c'est pas possible. Ce n'est pas la peine d'aller constater qu'il est là depuis 4 jours et puis de pleurer à ses pieds. Ça ne le ramènera pas. Et Jésus dit, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure ? Je t'ai bien demandé Est-ce que tu crois ? Il dit, si tu crois, tu verras. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Hein ? Le Fils n'est rien sans Dieu le Père. Ayant dit cela, ils crièrent d'une voix forte, « Lazare, sors !» Comme tout à l'heure, quand il a parlé fort à la jeune fille et qui lui a dit, « Talita kumi, lève-toi !»« Sors !» Lazare sort et Lazare sortit. Les pieds liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. C'était la coutume d'enrouler le défunt d'un linge, de bandes, un petit peu comme faisaient les momies, pour les momies. Et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le partir. Alors effectivement, on pourrait s'arrêter, on l'a fait brièvement, sur quelques aspects de ce texte qui est riche d'enseignements, de faits surprenants, une attitude de Jésus qui interpelle. Jésus apprend que son meilleur ami est malade, mais il reste quand même à l'endroit où il est. Et quand il se déplace, le temps de faire la route, parce que déjà il est resté 2 jours de plus, le temps de faire la route, Lazare est mort depuis 4 jours. Trop tard, pour la plupart. Mais Jésus, lui, voit Lazare comme endormi et pas encore comme mort définitivement. Seuls ceux qui n'auront pas cru en Dieu mourront définitivement. Le corps est déjà entré en phase de décomposition au bout de 4 jours. Ça commence déjà. Mais cela est-il important à Dieu? Notre enveloppe, elle n'a pas d'importance aux yeux de Dieu. C'est pas notre enveloppe qu'il voit, elle n'est que temporaire. Jésus avait le pouvoir sur la mort. Et dans ce récit, il précise, dès le début, vous allez voir ce que vous allez voir pour la gloire de Dieu. Et encore une fois, la présence de Dieu, la présence de Jésus parmi les siens n'est pas un gage comme quoi la mort ne peut pas survenir. Et puis on se rappelle enfin, dernier exemple, que Jésus a participé aussi à la mort. Dans Hébreux, chapitre 2, verset 14, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a montré au diable que la mort n'avait pas de prise sur lui et que Jésus était capable de ramener quelqu'un de la mort à la vie. » Satan ne peut pas le faire. Il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et puis dans 1 Corinthiens 15, verset 54, « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Je la donne moi-même, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean, chapitre 10, verset 17-18. Et puis il y a ce verset qui dit « Le Seigneur est réellement ressuscité ». Jésus est passé un peu par les phases de Lazare, comme Lazare. Il a été constaté mort, il a été mis au sépulcre, mais il est ressuscité. Quand tout à l'heure Jésus parle avec Marthe et Marie, lorsqu'il est question de « Oui, je crois en la résurrection, cette résurrection qui doit avoir lieu, c'est le retour de Jésus. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts, ceux qui dorment. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts avant nous. Hein. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier. Pas dans le corps d'origine. Un corps décomposé depuis ou en poussière. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà. La jeune fille de 12 ans qui s'est relevée, le jeune homme qui s'est relevé, Lazare qui s'est relevé aussi, et puis le premier fils qui lui aussi s'est relevé, sont passés de la mort à la vie, mais pas la vie éternelle. Ils ont eu leur propre mort. Et enfin, en conclusion, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 10, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ a annulé la mort et a fait luire la vie et l'incorruptibilité. Donc, mes bien-aimés, n'ayons pas crainte de la mort. C'est un passage vers une autre vie éternelle avec le Seigneur. Il est à souligner que nous avons vu différents personnages, hein, un officier du roi, un chef de la synagogue, une veuve, un ami, des circonstances différentes, des lieux différents, des déroulements différents, mais un seul résultat, de la mort à la vie, pour la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.